CQFD, tous les jours de la semaine, entre 10h et 11h.
Hier, Sarah Dirène, vous nous avez fait découvrir l'exposition Shapes, à voir jusqu'au 9 mars au pavillon de l'EPFL, une exposition entre art, mathématiques, sciences des matériaux et biologie qui met en lumière la fascination partagée des scientifiques et des artistes pour les structures géométriques. C'était très beau ce que vous nous avez décrit. Aujourd'hui, vous nous proposez un casse-tête mathématique présenté dans l'exposition.
Quadratis, hein, c'est son nom, il s'agit d'un puzzle, d'un casse-tête hein, qui repose sur un système de carrés colorés. L'objectif est de réorganiser les couleurs des carrés en effectuant des glissements horizontaux et verticaux tout en utilisant le moins de coups possible et tout ça dans un minimum de temps. Un peu comme, finalement, comme un Rubik's Cube. Hein, et chaque grille possède des centaines, des milliers, voire des milliards de configurations possibles. Alors j'ai téléchargé Quadratis, il est gratuit. Hein. Les premières figures sont relativement simples hein, à réaliser et perso, vraiment, à partir de la cinquième grille, j'ai arrêté.
On va vous aider Sarah, parce que seulement elle l'a téléchargé, mais elle me l'a fait télécharger, oui. Elle m'a demandé de jouer avec ma fille, et j'ai perdu beaucoup de temps sur la préparation de cette émission à me casser la tête là-dessus, mais j'ai beaucoup aimé, je dois dire. Alors on va essayer de comprendre surtout en quoi ce casse-tête est un jeu mathématique avec vous, Hugo Parlier, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le co-concepteur de ce jeu avec Paul Turner que nous entendions hier. Vous êtes professeur de mathématiques à l'université de Fribourg. Alors effectivement maintenant j'ai le jeu sous la main. Je déplace des carrés pour reprendre. Il y a un petit modèle, donc c'est une croix. Il y a plein de carrés bleus, puis il y a deux carrés roses qu'il faut que je mette au bon endroit. Mais bon, quand je les déplace, ça fait bouger d'autres choses. Donc,
c'est assez
intuitif et interactif, mais il faut comprendre que ça bouge effectivement un peu comme dans un Rubik's Cube. En quoi est-ce que je suis en train de faire des maths quand je tripatouille l'écran là?
Ben en fait, de plein de façons différentes. Donc évidemment, ce que vous faites, comme vous êtes en train de faire un jeu qui se joue sur ce qui s'appelle une surface topologique. Donc vous êtes en train de jouer sur un plateau très particulier, parce que le plateau, comme quand vous glissez le carré vers la gauche, parfois il apparaît vers la droite. Quand vous glissez le carré vers le bas, parfois il apparaît vers le haut. Et ces objets-là, ça s'appelle des surfaces topologiques, et c'est même des surfaces topologiques à petits carreaux.
C'est poétique.
C'est très poétique, comme le nom... Voilà, donc le nom est assez explicite. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces objets-là, l'idée de ce jeu d'ailleurs, vient de recherches contemporaines en mathématiques. Et pourtant, il n'y a pas besoin d'avoir fait quoi que ce soit comme étude pour jouer à ces jeux.
Ça veut dire qu'en fait, les mathématiques, ça peut être intuitif.
C'est même souvent intuitif, je dirais. C'est souvent intuitif, créatif.
Oui, mais enfin, il faut avoir une certaine logique hein, pour résoudre ces grilles. La logique, la résolution de problèmes, finalement, sont des qualités nécessaires hein, pour faire des mathématiques. Sans ça, Tintin ?
Sans doute, mais je crois que ça s'entraîne, en fait. C'est très difficile de savoir quelles sont les qualités intrinsèques des personnes, des mathématiciennes et mathématiciens qui j'ai plein d'histoires de personnes à qui on a dit que c'était pas la peine de faire des maths. Et par exemple, Mariam Mirzakhani, qui est la première femme à avoir eu la médaille Fields, à 12 ans, son prof lui a dit franchement, c'est pas la peine de poursuivre les maths.
Laissez tomber.
Et pourtant, voilà, c'est une des mathématiciennes mathématiciens les plus extraordinaires qui a jamais existé.
C'est pas celle qui est parvenue à réaliser la dimension en 8, la réorganisation des oranges, parce qu'on en parlait
hier.
Réorganisation des oranges en 8 dimensions.
Alors en fait, non, il y a deux femmes qui ont obtenu la médaille Fields. La première, Mariam Mirzakhani, et la deuxième, Marina Vjazovska.
Et justement, qu'est-ce qu'elle est parvenue à faire? Parce que la question, on voulait vous la poser. On parlait hier d'agencement d'orange. Elle a résolu finalement un problème mathématique. On se cassait la tête avec ce problème depuis le XVIIe siècle. Elle est parvenue à résoudre une énigme.
Absolument. Elle a résolu plusieurs problèmes assez extraordinaires. Donc effectivement, on parle beaucoup de la dimension 8, la dimension 24. Ce sont des problèmes d'empilement de sphères qui sont assez célèbres depuis déjà le 19e siècle. dans d'autres dimensions. L'ermite en parlait beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de questions qui sont liées à ça. Elle est à l'interface entre la géométrie et la théorie des nombres. Et c'est d'ailleurs un magnifique exemple de la géométrie qui est souvent liée à d'autres domaines des maths et d'autres domaines des sciences.
Oui, mais c'est-à-dire que si elle est parvenue à résoudre ce problème d'empilement de sphères qui hantait les scientifiques depuis des siècles, c'est parce qu'elle a fait preuve de créativité. Elle est arrivée à avoir autre chose en tête.
Absolument. C'est à chaque fois, d'ailleurs, quand on fait... Elle, c'est vraiment un exemple extraordinaire et spectaculaire. Mais à chaque fois qu'on démontre un nouveau résultat en maths, on a besoin de démontrer quelque chose, d'aller quelque part où les gens ne sont jamais allés avant. Et donc, pour ça, il faut de la créativité, il faut de l'intuition. Mais il y a plein de façons différentes de faire des maths.
Et est-ce que le jeu, pour en revenir au jeu qui nous occupe aujourd'hui et qui est à côté de vous, est-ce que c'est pareil? Est-ce que, il fonctionne? On peut le faire fonctionner intuitivement sans comprendre les mathématiques qui le sous-tendent? Ça vous échappe, mais peut-être ça vous met le pied à l'étrier d'un certain raisonnement?
Absolument. Absolument. Il faut aller à l'intuition, il faut aller à l'essai, il faut expérimenter. Et c'est d'ailleurs, dans ce jeu, et lorsqu'on le présente sous forme d'atelier, on aime beaucoup dire que le jeu, cet exemple, est un joli exemple de ce qui se passe au niveau de la recherche. Alors, c'est version plus courte, vous allez le faire en une demi-heure. Mais en fait, c'est une métaphore de ce qui se passe au niveau recherche. Vous commencez par expérimenter, par essayer des choses. Puis après, vous formez une intuition grâce à cette expérimentation. Et là, vous arrivez à résoudre un problème, à le refaire mieux. Puis après, il arrive tout de suite une autre question, donc un autre puzzle.
Mais alors, comme je vous disais, je n'ai pas passablement essayé, parce que j'aime bien ce genre de jeu. Je vois un bout de la logique, au bout d'un moment, j'arrive à comprendre, mais... J'arrive pas jusqu'au bout, donc je dois tâtonner et réfléchir. Vous me dites que les mathématiciens et mathématiciennes, c'est ce qu'ils font aussi?
Absolument, tout à fait. Alors évidemment, je ne dis pas que tout en mathématiques est tâtonnement, loin de là. Mais c'est sûr que le côté créatif, expérimentation, est beaucoup plus présent que ce qu'on pourrait penser.
Moi qui croyais que tout était bien formalisé, voilà. Ah, c'est bien, ça donne de l'espoir.
Mais vous dites que vous n'êtes pas parvenu, Lucia, à terminer ce casse-tête. Il y en a 16. Vous non plus, Hugo Parlier?
Alors, pour être tout à fait honnête, les 16 qui sont dans le jeu, je les ai tous faits à un moment dans ma vie. Mais c'est vrai que quand je veux refaire certains, dont par exemple le dernier... je travaille un peu comme vous, c'est-à-dire que je commence à faire le début et la fin, je le fais par tâtonnement. Et la réalité est que il y a d'autres puzzles qu'on a créés, que j'arrive encore moins à faire, et dont certains qu'on utilise dans des expos qui ne sont pas présentes dans l'application, mais c'est assez facile pour nous de créer des puzzles que personne n'arrive à faire. Moi, évidemment, y compris, mais pas seulement.
Donc c'est facile pour vous de faire des puzzles que vous-même n'arrivez pas à
Absolument.
Faire.
Absolument. D'ailleurs, oui. J'ai souvent cette question, lorsqu'on fait un festival de sciences ou quelque chose comme ça, d'enfants qui me demandent « Mais pourquoi vous avez fait des puzzles que vous n'arrivez vous-même pas à faire ?»
Parce qu'en fait, Hugo Parlier, il y a à chaque casse-tête, il y a des graphes, un graphique qu'on pourrait faire correspondre. Ce graphique, donc, c'est quoi? Et c'est ce que vous montrez notamment dans l'exposition.
Absolument.
Dans la deuxième salle, c'est-à-dire des points, points et des lignes, comme des immenses réseaux. Ça, on est vraiment en plein dedans, là, dans les mathématiques, dans la science des graphes.
Absolument. Donc ça, c'est lorsque vous jouez à Quadratis, vous bougez des petits carrés et vous concentrez sur ce qui est devant vous. Mais dans l'expo, justement, dans Shapes, on a voulu montrer les réseaux qui se cachent derrière chaque jeu et que nous-mêmes, on n'imaginait pas. En fait, nous, on les a visualisés pour la première fois quelques jours avant l'expo, parce qu'on ne savait pas à quoi ressemblaient ces réseaux. Pourtant, on avait déjà joué au jeu et on était fascinés de les voir. Et c'est un moment, c'était vraiment une chouette opportunité de pouvoir montrer la complexité et cette naissance de la complexité qui arrive derrière ces jeux.
Pour bien comprendre, moi j'ai pas vu l'exposition, ça veut dire qu'on joue en direct au jeu et derrière ce que moi je fais intuitivement ou disons en tâtonnant, la complexité des équations que je suis en train de mettre en place sans m'en rendre compte s'affiche par des graphes sur les panneaux.
Exactement. Et en fait, vous voyez le réseau. En fait, quand vous baladez dans un jeu, vous baladez dans un réseau sans le savoir. Et ce réseau, c'est vraiment un réseau où les points correspondent aux différents motifs. Et vous allez d'un motif vers un autre en faisant ces mouvements que vous faites avec les doigts. Et ce que vous voyez sur le grand écran après, c'est exactement vos mouvements. Et vous pouvez colorer vos mouvements, laisser votre trace, la trace de votre couleur. Et vous voyez toutes les traces de tous les visiteurs qui sont venus.
Un peu comme si je me baladais sur un labyrinthe de toile d'araignée.
Absolument.
Et il faut que j'aille à ce croisement de la toile d'araignée,
exactement.
Ça sera la solution.
Absolument.
Et je me déplace un peu en zigzag.
Tout à fait, absolument.
Okay. Oui, mais il y a des graphes impossibles à représenter parce gigantesques.
Ah,
oui. 24 carrés, par exemple, c'est impossible. Ben, et plusieurs couleurs.
Oui, si on prend plusieurs couleurs, donc par exemple, si vous regardez le 12e puzzle dans Quadratis, typiquement, j'avais fait le calcul une fois pour savoir quelle serait la taille du graphe si on voulait le représenter sur un écran. Et j'ai fait ça quand j'étais au Luxembourg et on me disait, on m'a fait la remarque, au Luxembourg, vous savez, on a les moyens, on pourrait essayer de représenter ça sur un écran, etc. Et j'ai dit, ça va être compliqué parce que la taille du graphe, c'est la taille du Luxembourg, justement.
Oui, c'est petit, le Luxembourg.
Le 12e, c'est celui-ci, c'est un carré plein.
Exactement.
Ah, celui-là, il m'a donné pas mal de fil à retordre, effectivement.
Absolument.
Vous parliez tout à l'heure, Hugo Parlier, d'atelier. C'est-à-dire que vous êtes vraiment un vrai chercheur avec une tête, la tête dans les chiffres et dans les équations. Et puis vous animez aussi des ateliers de mathématiques. Vous me disiez en préparant cette émission, tout doit s'expliquer en 10 secondes.
En fait, oui, absolument. Donc avec mon collègue Bruno Theux, avec qui on a fait énormément d'ateliers au Luxembourg et avec lequel on continue à collaborer. C'est d'ailleurs avec lui que vous en avez parlé hier à l'émission de la possibilité de faire des dessins à Shapes. Et c'est avec lui qu'on a conçu Lifelines, justement. Et on a une règle d'or lorsqu'on présente des activités lors d'un festival de sciences ou lors d'événements publics, on veut que les activités soient toujours explicables en moins de 10 secondes. Voilà.
Vous parlez de cette activité de dessin, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, c'est une activité qui est évidemment à l'intersection entre les maths et l'art, car vous devez simplement, avec votre doigt, dessiner une courbe qui va de la gauche à la droite d'une tablette qui est devant vous, et vous pouvez faire le dessin que vous voulez. Vous pouvez écrire un texte, vous pouvez dessiner Mickey Mouse, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez dessiner quelque chose d'abstrait. Et ce qui est unique avec Lifelines, c'est que devant vous, les zones qui ont été délimitées par la courbe vont être colorées selon des principes mathématiques, selon ce qui s'appelle l'indice. Mais on n'a pas besoin de savoir ça pour expérimenter avec. Et pour se faire un dessin qui ressemble finalement à un dessin coloré un peu comme un miro ou comme un dessin abstrait.
Y a de l'intuition, mais vous me disiez, parce que je suis en train de trifouiller, je suis en train de jouer à votre jeu Quadratis, est-ce que je pourrais, vous n'êtes pas parvenu à faire le dernier, le 16e Pulse, est-ce que je pourrais demander à un algorithme de résoudre ce puzzle à ma place?
Alors ça, c'est une super question. Et la raison pour laquelle c'est une super question, c'est que justement, c'est un exemple de problème auquel on s'intéresse en maths. On a souvent l'impression que les mathématiques sont mortes, dans le sens où on sait déjà tout, où tout est connu, et c'est loin d'être le cas. Et ce que vous me dites, là, exactement la question que vous me posez, c'est justement un problème ouvert. C'est-à-dire que c'est l'exemple d'un problème. On ne connaît pas d'algorithme pour résoudre les puzzles Quadratis. C'est un vrai problème de recherche.
Eh ben, tant mieux, ça laisse un immense champ de jeu pour tous ces grands enfants qui font des puzzles à l'EPFL, à l'Université de Fribourg ou ailleurs. Donc, merci Hugo Parlier d'être venu ce matin jouer avec nous. Votre jeu
merci
est téléchargeable sur n'importe quel smartphone ou ordinateur. Il est gratuit. On peut le découvrir également dans l'exposition Shape, à voir jusqu'au 9 mars au pavillon de l'EPFL Shapes. Et je rappelle que vous êtes professeur de mathématiques à l'Université de Fribourg. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous. CQFD.